troisième et dernière partie d'émission. Donc, ce moment tant attendu. Le dossier de la semaine, cette semaine, on parle de RE pour les intimes. Le RE, c'est l'éducation relative à l'environnement. À cet effet, on reçoit Robert Lidière, président de l'ACUPER, donc l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement, qui est un OSBL qui regroupe principalement des individus et des groupes québécois, tels des écoles, des musées et des ONG, ainsi que d'autres réseaux. Alors donc, d'abord, Monsieur Lidière, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien?
Bonjour, Sofiane. Oui, très bien.
Je voulais commencer par une question bien générale, en fait. Deux questions dans une. D'abord, c'est quoi précisément, j'ai dit un peu là, ce qu'on pouvait trouver sur le site Internet, mais c'est quoi plus précisément la CUPER et surtout, c'est quoi l'éducation relative à l'environnement?
Bien, la CUPER, comme tu l'as dit, c'est l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation à l'environnement, un groupe qui a quand même déjà une quinzaine d'années d'existence, puisqu'on fête notre 15e anniversaire en 2005. On est né au mois de janvier 90, donc au mois de janvier 95, 2005, on va avoir 15 ans. On rentre dans notre 15e anniversaire.
Mes hommages, c'est okay. Pas rien pour un groupe.
Bien, alors, mais on a vécu difficilement, au moins pendant les 10 premières années. Mais là, on s'éloigne un petit peu du sujet, parce qu'on avait, on pouvait compter uniquement sur nos forces bénévoles. Et ce n'est que relativement récemment qu'on a eu les reins un petit peu plus solides, parce que le ministère de l'Environnement, le précédent, nous avait accordé, comme groupe national, puisqu'on œuvre sur l'ensemble du territoire québécois, nous avait accordé pour la première fois, après 11 années d'existence, un financement statutaire. Mais bon, d'accord. Donc là, on est un petit peu plus à l'aise. L'éducation relative à l'environnement, c'est quoi? L'éducation relative à l'environnement, c'est d'abord une éducation aux valeurs. Il ne faut pas confondre environnement et questions environnementales et problématiques environnementales. On les connaît tous trop bien. Le changement climatique, gestion des déchets, etc. Tout ça. Ça, c'est l'environnement. Mais ce qui est important, c'est l'éducation aux valeurs.
Et quelles sont ces valeurs?
Parce que on ne peut s'occuper d'environnement que dans la mesure où on a intégré sa responsabilité personnelle à l'égard de l'environnement. J'ai beau assister à des discours, fréquenter des conférences, etc., tout ça, si je n'ai pas dans mes tripes à moi intégré que j'ai moi une responsabilité vis-à-vis de l'environnement, du matin au soir, dans tous mes gestes. Je suis à la maison, est-ce que je vais laisser 5 pièces allumées? Ou est-ce qu'au contraire, je vais penser à un moment donné que éventuellement cette économie que je pourrais faire en éteignant les interrupteurs dans les pièces où je ne me trouve pas? Mais ça, c'est une éducation aux valeurs. C'est un sens des responsabilités, c'est un sens du partage, de la solidarité. On n'est pas tout seul sur Terre, on est entouré de gens. Et on doit à un moment donné communiquer notre responsabilité individuelle à d'autres, de façon à ce que globalement, dans la société, on devienne une société responsable.
Donc c'est une logique qui veut transmettre certaines valeurs à l'égard de l'environnement, mais plus précisément l'éducation relative à l'environnement, donc c'est un concept, mais comment est-ce que vous pouvez le faire vivre?
Alors d'abord, cette éducation-là, pour pouvoir la faire et pour pouvoir la vivre, il faut connaître les choses. Comment voulez-vous transmettre à d'autres ce que vous ne connaissez pas vous-même? Donc, si vous voulez parler avec conviction du respect de l'environnement que vous souhaitez, que vous devez avoir vous-même et que souhaitez que les autres aient à votre contact, il faut connaître les choses. Et quand on connaît les choses, on sait faire les choses. Ou en tous les cas, on peut apprendre à faire les choses. Quand on ne connaît pas, on fait n'importe quoi. Et on le fait mal. Alors donc, connaissance, qui est un savoir. Ensuite, un savoir-faire. À partir du moment où vous avez la connaissance et le savoir-faire, vous allez acquérir le savoir-être. Et quand vous savez être, vous savez vivre.
Oui, ça c'est intéressant. Vous venez du collège Rosemont, qui sont des pionniers dans le domaine. Ça fait 15 ans que vous dites que la CUPER existe. Par contre, à travers tous les autres collèges au Québec, il y a presque rien qui se fait. Et à vous entendre, ces valeurs-là devraient être des valeurs répandues dans la société québécoise qui semble vouloir parler d'environnement, vouloir le protéger. Comment ça que c'est simplement dans un petit cégep qu'on entend parler d'éducation comme ça?
Il faut rapprocher ça de beaucoup d'autres phénomènes. C'est que quand vous voulez transformer à un moment donné la société, vous savez, les révolutions ne se sont jamais faites qu'avec une minorité d'individus. Et cette minorité-là, à force de persévérance, a réussi finalement à étendre et à contaminer, dans le bon sens du terme, les autres. et finalement à gagner du terrain, à faire en sorte que ça gagne du terrain. C'est faux de dire qu'il n'y a que au Collège de Rosemont qu'on fait des choses. On fait des choses particulières qu'on ne fait que chez nous. Mais si vous regardez un petit peu autour de vous, ça fait 7 ans au moins que le Cégep Saint-Jérôme, ça fait 10 ans que l'Université Laval ont adopté des comportements écologiques basés sur les nôtres. Et donc, en recevant ces personnes-là chez nous, eh bien, ça finit par progresser. Et on verra dans peu de temps que ce qui se fait chez nous va gagner l'ensemble des collèges du Québec. Mais il y a une espèce de temps pour tout ça.
Toujours Délirium environnemental. Je vous rappelle qu'on a le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Robert Lidzer, qui est président de l'AQPER, donc de l'Association québécoise pour l'éducation relative à l'environnement. Donc, cette organisation-là, l'AQPER, a fait compte plusieurs initiatives absolument remarquables. Dernièrement, on a entendu parler de vous, entre autres, parce qu'en collaboration avec Enjeu, vous avez participé à la mise en place d'un programme de cégep vert. Puis là, c'est un peu, je pense, que où est-ce qu'on s'en allait avec la question de Patrick, à savoir, quand vous parlez d'éducation relative à l'environnement, est-ce que vous parlez d'un programme, d'un cours qui se donne dans une école? Est-ce que vous parlez de thématiques qui sont incluses dans un programme plus général? Donc, est-ce que c'est institutionnalisé ou c'est vraiment plus général, peut-être plus par le parascolaire? Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on entend par éducation relative à l'environnement?
D'abord, il y a une première chose qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut surtout pas croire que la réforme scolaire qui est débutée maintenant depuis les États généraux, depuis 95, hein, ça fait donc presque 10 ans, et on sait qu'à l'heure actuelle, le primaire est complété et que cette réforme gagne tranquillement le secondaire et sera achevée en 2007. Mm-hmm. En 2007, ce sont ceux qui sont actuellement au secondaire qui vont nous arriver. Ça sera les premiers cégepiens qui vont nous arriver en 2007-2008. On s'est dit, puisque vous faites allusion à Enjeu et puis au cégep vert, c'est que à tout seigneur, on a voulu laisser la primaire à environnement jeunesse pour lancer un mouvement comme ça. Pourquoi ? Parce que environnement jeunesse est depuis longtemps, depuis fort longtemps, dans les différents cégeps. Ils ont formé des groupes environnementaux, ils ont formé des gens qui sont des relais environnementaux d'environnement jeunesse dans les cégeps. On s'entend bien dans les cégeps et non dans les écoles secondaires. Okay? Donc, le terrain est favorable. Et ce qu'il fallait faire maintenant, c'est trouver à travers un projet qui d'abord a été initié au Collège de Rosemont, faire en sorte que ça puisse gagner l'ensemble des cégeps. Je m'explique. Au Collège de Rosemont, on fait évidemment depuis fort longtemps la gestion intégrée des matières résiduelles à travers le parascolaire, pas dans les cours, mais à travers le parascolaire de façon volontaire. Et parce qu'on a une direction qui est extrêmement favorable à cela, qui nous encourage constamment, ce qui n'est pas général, et ce qui pourrait fort bien expliquer le fait que on est encore un des premiers cégeps, parce que vous savez, quand la direction n'adopte pas une politique verte, il est extrêmement difficile pour des étudiants, aussi volontaires soient-ils, je pense que vous en connaissez aussi quelque chose à l'UQAM ici, c'est un coup d'épée dans l'eau et les étudiants ne peuvent pas progresser. Mais si à la direction, et c'est ce qui nous caractérise au cégep, si à la direction on a une vision environnementale pour l'institution, ça va beaucoup mieux. Bon, donc les cégeps vont avoir, alors nous on a instauré un concours pédagogie environnement et là on vient associer la pédagogie donc à l'intérieur des cours à l'environnement et sur une base volontaire, les étudiants peuvent, qui s'intéressent à une problématique environnementale, peuvent l'exprimer, faire des recherches, et c'est valorisé et c'est noté à l'intérieur de leur cours. OK? Donc, il y a une performance académique. Ce qui est fait dans le parascolaire est valorisé à l'intérieur des cours par les enseignants.
Bravo.
Ça, c'est tout un progrès. Et c'est ce que nous voulons maintenant faire en sorte que ça puisse se développer dans l'ensemble des cégeps jusqu'en 2008. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de cégeps, évidemment. Il y en aura 5-6 par année. Ça ira peut-être plus vite un peu avec au fil du temps. Mais on pense que d'ici 2008-2009, quand les premiers étudiants élèves du secondaire vont nous arriver, ils vont tomber dans des cégeps où ils peuvent continuer à progresser de la même façon.
Moi, j'aimerais savoir quelle est la réponse justement du gouvernement. Par exemple, on entend souvent M. Dion, le ministre de l'Environnement au niveau fédéral, qui dit que l'éducation est très importante pour lui, que c'est une des voies d'avenir. Mais en termes concrets, j'ai l'impression que vous êtes encore marginal, vous poussez, et ça vient complètement du bas et non pas du haut. Et ce ne sont que des discours, des paroles, des politiques.
C'est extrêmement vrai ce que tu dis. Et il faut se souvenir pour ça, parce que au fond, le ministre Dion actuellement hérite de son prédécesseur qui, en 2002, a porté à Johannesburg le cadre canadien pour l'éducation à l'environnement et à l'avenir viable. Mais d'où est sorti ce plan-là? Jamais ce plan-là n'aurait été, parce qu'il faut rendre justice à ceux à la base, justement. C'est en 2000 que nous nous avons adressé, quand je dis nous, ces 150 groupes environnementaux à travers le Canada qui ont dit « il y en a assez ». Ils ont dit à Monsieur Anderson, là, il va falloir que ça change parce que depuis le plan vert du Canada qui a été adopté en 95 mais qui a été abandonné par la suite, il n'y avait absolument plus aucun soutien à l'éducation, à l'environnement dans le programme fédéral. On lui a dit, ça peut pas continuer comme ça. Vous criez sur les toits et on peut l'entendre partout que l'éducation à l'environnement est fondamentale et c'est une transversale à travers tous les programmes, toutes les problématiques environnementales. L'éducation est à la base. Enlevez les éducateurs sur le terrain et il n'y a rien qui fonctionne. Donc on est les vrais réalisateurs sur le terrain. Par conséquent, vous devez faire de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé un sondage. C'est ce que les politiciens font habituellement. Mm-hmm. Quand ils veulent retarder un problème, ils commandent des études, on le sait. Bon, il a commandé un sondage. Mais ce qui l'a tout à fait surpris, c'est qu'il y a 5500 personnes à travers le Canada qui ont répondu au sondage. C'est tout un chiffre. Okay. Et donc, il a sorti son cadre national qu'il a présenté à Johannesburg. Nous y avons contribué parce que nous lui avons fourni une soixantaine de plans d'action par des groupes québécois en soutien à ce plan cadre. Et maintenant qu'il n'est plus là, il ne peut pas, le nouveau ministre, Stéphane Dion, ne peut pas reculer dans cela parce qu'il a des comptes à rendre. Il a fait porter à Johannesburg une attente. Et cette attente-là s'est soldée par quoi? Elle s'est soldée par une décision de l'Organisation des Nations Unies, ce qui est fort important, de faire de la décennie 2005-2014 la décennie de l'éducation au développement durable.
Ah ben, ça sera la suite. Si vous permettez, on s'arrête quelques secondes et on y revient encore plus précisément. Vous écoutez toujours Delirium environnemental. Je vous rappelle qu'on a toujours le plaisir de s'entretenir aujourd'hui avec M. Robert Lidzer, président de l'AQPER. Donc, et on parle en effet d'éducation relative à l'environnement. Vous nous disiez juste avant de partir, se divertir l'oreille. Donc, de 2005 à 2015, ce sera la décennie du développement durable et de l'environnement. En fait, de l'éducation au développement durable. C'est peut-être ce qui nous amène à revenir un peu plus proche ici au Québec, s'éloigner du Canada pour revenir au Québec. Et pour parler de l'avant-projet de loi du ministre Thomas Mulcair concernant le développement durable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, d'après vous, c'est les prémices de meilleur demain?
Écoutez, il faut se dire... Moi, je fais un parallèle. Je fais un parallèle entre une action que je connais bien, puisque c'est celle qui s'est faite au Collège de Rosemont, et la déclaration de Mulcair et le plan de développement durable. Au Collège de Rosemont, tant et aussi longtemps que nous n'avions pas de politique environnementale, Le résultat et le succès de l'opération dépendaient du bon vouloir des gens. Mm-hmm. Ok. Or, vous savez comme moi que il y a chaque année un renouvellement considérable d'étudiants. Il y a 1500 étudiants qui viennent à chaque année. Donc, il y a un taux de roulement important. Et donc, ces jeunes qui nous arrivent doivent être éduqués à leur tour. Eh bien, un jeune et un adulte aussi. D'ailleurs, les jeunes ne sont pas réticents à s'occuper d'environnement parce que ce sont souvent les plus motivés. Mais il y a des adultes aussi qui fréquentent le collège et qui ne font pas nécessairement partie de l'institution. Sauf que quand on franchit le seuil de la porte du collège, on apprend que, par la politique qui est affichée partout, qu'il faut se comporter en citoyen responsable. Bien, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas de politique admise en haut lieu pour un cégep, c'est le conseil d'administration. Tant que vous n'avez pas ça, n'importe qui peut vous dire, mais en vertu de quoi je t'écouterai? En vertu de quoi je me comporterai comme un citoyen responsable quand je franchis le seuil de porte du collège? Okay? Eh bien, c'est exactement la même chose. Ne pas avoir de politique environnementale dictée en haut lieu, ne pas avoir de politique de développement durable édictée par le ministère de l'Environnement et donc endossée par le gouvernement, il n'y a pas de responsabilité du citoyen. La responsabilité du citoyen, elle doit s'articuler sur un discours, sur une politique environnementale que seul le gouvernement peut lui dicter.
Donc, vous êtes positif.
Alors, moi, je me dis que cette politique-là, je ne l'ai pas étudiée à fond et on sait que toute politique, d'ailleurs, c'en est pas encore une. C'est un projet de loi, ne l'oublions pas. Monsieur Mulcair va rencontrer beaucoup d'obstacles. Mais moi, je me dis qu'il s'agit maintenant non pas de se croiser les bras et d'attendre qu'il se casse la figure, mais il faut les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur de cette politique, parce qu'il y en a énormément de bonnes choses. Si vous pensez que la déclaration, par exemple, de créer un fonds vert de 50 millions pour venir en aide aux groupes environnementaux pour les soutenir, pour qu'ils ne crèvent pas, bien voici une décision dont tous les groupes environnementaux vont se réjouir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant au lieu de se croiser les bras et ne rien faire? Il faut aider ce gouvernement-là à mettre au point, lui permettre de développer dans l'action cette politique-là.
Et comment vous voyez justement ce type d'aide?
Et donc nous, au niveau de l'éducation relative à l'environnement, on doit maintenant, dans les différentes facettes de cette politique-là, lui dire, eh bien, nous on va intervenir à tel niveau. C'est notre responsabilité, on va intervenir à d'autres niveaux. Par conséquent, ça veut dire quoi concrètement? On revient un petit peu à ce que je disais tantôt. Si maintenant nous voulons absolument que Environnement Jeunesse, voici le groupe qui veut s'implanter dans les différents cégeps pour faire en sorte que le concours pédagogie environnement et le programme des cégeps verts prennent naissance, comment ce groupe-là peut-il agir s'il n'a pas de ressources? Alors, nous disons au ministère, avec le Environnement Jeunesse, nous allons faire en sorte que, en 2009, tous les cégeps aient un programme pédagogie environnement, et nous allons travailler pour ça, mais vous allez nous aider à ce moment-là à tenir parole dans le 50 millions que vous allez chercher.
Et monsieur Lidzard, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle que le monsieur qu'on vient d'entendre, c'est monsieur Robert Lidzard, donc de l'AQPER. Moi, j'en retiens peut-être que l'éducation relative à l'environnement, c'est l'éducation du vivre ensemble, de la responsabilité. En fait, le gros bon sens puis le civisme.
Tout à fait.
C'est comme quand mes parents me disaient, ta liberté s'arrête où est-ce que celle des autres commence?
Oui, et puis qu'on y mette n'importe quel mot, qu'on appelle ça éducation au développement durable, qu'on appelle ça éducation à l'environnement, qu'on appelle ça éducation à l'avenir viable. Voyons, on peut se battre longtemps sur les termes. Ce qui est important, c'est le geste que l'on accomplit au jour le jour et par lequel on peut intervenir auprès des autres.
C'est exactement ce qu'on va retenir, le geste qu'on accomplit au jour le jour. Monsieur Lidzard, merci beaucoup d'être venu nous voir.
Pourquoi?
Hey, c'est déjà ce qui va compléter Delirium environnemental pour cette semaine. Ça passe définitivement trop vite quand on s'amuse. Alors, comme c'est la fin, c'est le temps des coups de cœur, coups de masse. Et au calendrier, cette semaine, allez, on se fait plaisir.
Coup de masse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans le coin droit, Stephen Harper qui reçoit un sacré coup de masse pour sa déclaration. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que le Canada ne doit pas dépenser des milliards de dollars pour atteindre les objectifs de Kyoto. Monsieur Harper s'est complètement montré aucunement ouvert à cette idée. Et Monsieur David Anderson, dont on parlait, ancien ministre de l'Environnement libéral, qu'est-ce qu'il nous dit pas? Eh bien, il dit, en fait, Monsieur Anderson, le cabinet avait l'air de cheerleaders pour les amis lobbyistes de l'industrie. Ça, c'est le cabinet ministériel fédéral. Donc, Monsieur Anderson, qui est encore député, dit ça de ses anciens amis ministres des cheerleaders.
Ça vaut la peine d'être père de ministère parce qu'on se met à parler des vraies affaires. Je suis sûr qu'il n'a pas jamais traité les autres de cheerleaders dans le temps qu'il était ministre de l'Environnement au fédéral.
Coup de cœur à la ville de Londres qui, après avoir eu tant de succès avec son premier programme de restriction aux véhicules au centre-ville, vient de décider, ou en fait non, envisage fortement la décision de doubler le secteur, le périmètre de restriction véhicules.
Oh, ben gros coup de cœur à Londres, bravo, quelle audace! Moi, j'ai un coup de cœur mitigé. En fait, j'attire votre attention, on voit beaucoup de vaches présentement à la télévision parce que les producteurs de bovins sont complètement révoltés du prix qu'ils reçoivent, entre autres à cause de la concentration, du fait qu'il y a seulement un abattoir dans la région du Québec. Ben écoutez, messieurs, dames, c'est une belle façon peut-être, c'est le moment ou jamais de réfléchir à la consommation qu'on fait de la viande. On sait que la consommation de viande met des pressions hallucinantes sur l'environnement, donc c'est le moment ou jamais peut-être de réfléchir à tout ça. C'est aussi peut-être le moment ou jamais d'encourager un membre producteur, un des membres de l'Union paysanne qui tenait cette fin de semaine leur congrès annuel. Alors je termine par un beau coup de cœur pour l'Union paysanne. Puis s'il vous plaît, gardez donc l'abattoir fermé, peut-être qu'on va sauver une couple de vaches au Québec. Drôle d'idée.
De vaches, je tombe dans le pétrole. Écoutez, je peux pas passer à côté d'un coup de masse à ce pétrolier. On avait entendu parler de ce qui s'était passé au Canada. Et bien, la semaine passée, 114 000 litres de pétrole près de Philadelphie. On a eu un petit problème sur le pétrolier, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ça s'est tout ramassé dans l'océan encore.
C'est une plateforme de forage.
Non, cette fois, c'est un pétrolier.
C'est un autre.
On n'en parle pas du même. Il y en a un autre qui s'est passé à Philadelphie. L'autre, c'était à côté de Terre-Neuve. Vive le pétrole.
Ben, moi, j'y vais aussi d'un coup de masse à une entreprise qui s'appelait Union Carbide et qui maintenant s'appelle Dow Chemical pour la mort de 20 000 personnes en Inde, en fait, à Bhopal. Il faut réparer les dégâts. C'est un des endroits les plus contaminés au monde. Ça, c'est une autre industrie qui a pas assumé ses responsabilités, qui a empoisonné, qui a fait des profits en vendant des produits empoisonnés en ayant cet accident-là. Tout le monde paye, mais personne prend les bénéfices de cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Il faut payer pour tous les crimes que vous avez faits contre l'humanité, Union Carbide, qui produit des pesticides.
Coup de cœur à l'Ontario. L'Ontario qui a décidé d'ajouter de l'éthanol dans son essence, 5 % d'ici 2007. On s'attend à une réduction de 800 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce qui équivaudrait à peu près à la réduction de 200 000 voitures sur les routes ontariennes.
Oh, bravo. Maintenant, vous allez entendre Étienne Côté-Paluc à la Régie qui s'offre un coup de cœur, je pense bien.
Oui, j'y ai pris goût la semaine dernière, donc on continue sur la même lancée. Donc, je vous parle cette semaine, en fait, d'une émission de télévision qui s'appelle Méchant Contraste, diffusée à Télé-Québec tous les lundis soirs à 19h30, en rediffusion les jeudis à 00h30, qui nous une bonne émission. Donc, en soi, ça vaut la peine de l'écouter. C'est une nouvelle émission qui parle de l'ensemble des régions du Québec et des trouvailles qu'on peut y faire. Cette semaine, il y avait un gros bloc sur les inventeurs, dont un inventeur qui a inventé une éolienne verticale qui va être probablement utilisée dans les rues de New York, en fait, sur les édifices, sur les toits d'édifices. Il paraît que c'est parfait. Donc, ça vient d'ici. C'est une technologie inventée ici. Ça vaut la peine. Donc, ça va être en rediffusion jeudi 00h30 ou dimanche deux fois dans la journée.
Wow, merci beaucoup, Étienne. C'est un beau coup de cœur. Un beau coup de cœur aussi à Télé-Québec, une télévision peut-être un peu plus indépendante, qui a de la misère souvent parce qu'on pense pas que ça vaut la peine de les aider. Il y a d'autres qui pensent pas assez de grosses affaires. Par contre, ils passent des choses intéressantes. Moi, j'y vais d'un petit coup de cœur complètement absurde à tous les Chinois qui ont arrêté de consommer de la bile d'ours à pas d'allure, OK? Coup de cœur à ces Chinois-là qui ont arrêté d'en consommer. Je m'excuse, je suis très émotive sur cette question.
Coup de cœur à tous ceux qui vont arrêter de se moucher avec des mouchoirs de la marque Kleenex. Kleenex qui est en train de raser nos forêts boréales pour qu'on se mouche dedans. C'est inacceptable. Allez voir le site de Greenpeace si vous voulez plus d'informations. Kleenex, dites-le à tous vos amis. Kimberly Clark, Kleenex.
Eh bien, un drôle de coup de masse pour Hydro-Québec qui finalement nous confirme l'important potentiel du développement hydroélectrique du Québec dans un communiqué de presse. Non, mais on le savait, là.
N'importe quoi.
Ben, je pense qu'il faut tout de suite qu'on vous parle de cet événement encore une fois. Lundi, le 6 décembre, c'est la coalition Au Secours qui vous invite à une soirée d'information justement sur les intentions du gouvernement libéral québécois de privatiser la gestion de l'eau. Tout ça, c'est en lien évidemment avec les projets de loi 61 et 62. 6 décembre, 19h, à la salle Marie-Guérin-Lajoie à l'UQAM. Allez voir sur notre site web www.radiodelirium.net ou sur le site d'Au Secours. Vous allez avoir le lien et toutes les informations. Raoul Duguay va être là.
Eh bien, moi, je vais vous surprendre. Hein. Je vais faire un coup de cœur à Monsieur Thomas Mulcair. Thomas Mulcair, pour votre plan, votre avant-projet de loi sur le développement durable. Écoutez, je vous donne un coup de cœur pour ça. Vraiment, je suis avec vous de tout cœur. Par contre, un coup de masse pour toutes vos dernières décisions concernant, entre autres, les milieux humides à la Longueuil, l'agrandissement du dépotoir de Sainte-Sophie, l'autorisation de la prospection gazière dans le fleuve Saint-Laurent. Ah, c'est vrai, là, vous êtes mis à hésiter sur celui-là. Fait que bref, monsieur, il faut être conséquent dans sa conscience et essayer d'agir dans le même sens. Ça serait pas pire.
Hey, j'aime ça, les coups de masse. Michel Audet, monsieur le ministre. Il est ministre de quoi encore, lui? Excusez-moi, je me suis... Ministre du Développement économique et régional qui dit qu'il va continuer à subventionner les entreprises polluantes. Shame on you, libéral québécois, Michel Audet. Shame on you.
Hey, ça passe tellement vite, il y a tellement de choses à dire, le milieu de l'environnement, c'est tout. Vous venez d'écouter Delirium Environnemental, le magazine radio d'information en environnement. Je vous rappelle que c'est également un site internet que vous pouvez rejoindre au www.radiodelirium.net. C'est aussi une cyberlettre qu'on envoie à des milliers de personnes chaque semaine, où est-ce que vous pouvez lire les nouvelles desquelles on vous parle. Pour ça, vous vous inscrivez sur notre site internet. À tous ceux qui ont fait l'émission aujourd'hui, Hugo Lachapelle, Patrick Bonin, ainsi que M. Robert Lidzer, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. À la régie, la mise en onde et conception du site web, Étienne Côté-Paluc, comme à l'habitude. Moi, la voix de fille dans Delirium, c'est Sophie-Anne Lejeune, ça m'a fait plaisir. La semaine prochaine, encore plein de nouvelles environnementales, en espérant qu'il y en ait plus de bonnes que de mauvaises.